Chapitre 23. L'étoile du soir. Quand elle vit les deux amis de l'âne partir au galop pour ne pas se laisser semer, Moiraine s'autorisa un petit sourire. Si le guerrier voulait la fuir à une telle vitesse, elle avait dû lui faire une solide impression. Pour approfondir la chose, il faudrait attendre un peu. Ainsi, il pensait qu'elle devait éviter les coins les plus chauds de Tchatchin. La façon dont elle avait disposé des bandits aurait dû l'empêcher de proférer de telles bêtises. Chassant l'âne de ses pensées, la jeune femme se mit précisément en quête de ces fameux quartiers chauds. Chaque fois qu'on leur autorisait une sortie en ville, à l'époque où ils étaient encore désacceptés, Siouan l'entraînait immanquablement dans des salles communes d'auberges, eh bien, douteuses, aurait-on pu dire. La nourriture et le vin n'y étaient pas chers, et on était presque sûr de ne pas y rencontrer de sœurs. Une chance, parce qu'elle n'aurait sûrement pas approuvé que deux acceptés viennent boire un petit coup dans des endroits pareils. De plus, Siouan se sentait beaucoup plus à l'aise dans les établissements de ce niveau. Moiraine aurait préféré dîner dans un cadre plus sophistiqué, mais avec l'entêtement de son ami. À ce propos, Siouan étant ce qu'elle était, elle aurait à coup sûr choisi l'auberge la moins chère de Tchatchin. Moiraine chevaucha jusqu'à un quartier, entre le premier et le deuxième mur d'enceinte, où il n'y avait pas l'ombre d'une chaise à porteur, et pas d'artiste des rues non plus. Ici, les rares marchands ambulants n'avaient pas de clients, et en juger par leur triste mine, ils n'espéraient pas en avoir de sitôt. Malgré leurs toits de tuiles rouges brillants, les bâtiments, dans ce secteur de la ville, paraissaient franchement délabrés. Sur les portes et l'encadrement des fenêtres, la peinture s'écaillait, quand il y en avait, et les vitres cassées se comptaient par dizaines. Des enfants en haillons jouaient en riant dans la poussière. Où qu'on aille, les enfants jouaient, et c'était bien comme ça, car ils n'auraient plus beaucoup l'occasion de s'amuser, une fois devenus grands. Armés d'un gourdin, les boutiquiers montaient la garde devant leur magasin. Estimant que tout passant était un voleur en puissance, ils ne quittaient jamais du regard leurs étals. De fait, il arrivait que les miséreux se laissent tenter quand ils crevaient de faim. La cape au col de fourrure et la robe de soie de Moiraine, les attributs de la richesse, dans un quartier pareil, lui valaient nombre de regards furtifs. Flèche aussi excitait la convoitise, car il n'y avait pas d'autre cheval dans ces rues. Lorsque la jeune femme mit pied à terre devant la première auberge qu'elle vit, un établissement miteux baptisé Loi ébouriffée, un chien au flanc creux lui montra les crocs. L'animal se faisant insistant, elle le chassa avec un petit flux d'air qui l'incita à partir à la course en glapissant. Mais il y avait plus grave que le cabot. Vêtue d'une robe rouge fatiguée, dont la couleur s'était fanée par endroits, une grande femme faisait mine de chercher un caillou dans sa chaussure. En réalité, elle lorgnait Flèche, avec des intentions rien moins qu'honnêtes. Et devant cette fichue auberge, il n'y avait rien pour attacher sa monture. Laissant les rênes pendre librement, ce qui indiquerait à la jument de ne pas bouger, Moiraine tissa des entraves d'air autour des antérieurs du cheval. Puis elle ajouta une protection qui l'avertirait si quiconque tentait de le déplacer. Ce tissage-là, elle ne le verrouilla pas, continuant à le maintenir à distance. La salle commune de Loi ébouriffée était aussi miteuse que l'annonçait la façade. Le sol était couvert par ce qui avait dû être un jour de la sciure. Avec le temps, c'était devenu une sorte de boue gelée. L'air empestait le tabac et la bière aigre, sans parler de l'odeur de brûlé montant de la cuisine. Les clients assis aux minuscules tables, le nez dans leur chope d'infâme bibine, levèrent la tête et sursautèrent, en voyant entrer une dame si bien mise. L'aubergiste accourut. Très mince, jamais de bon augure pour quelqu'un de sa profession, ça, il eut un sourire qui ressemblait plus à un rictus. Hors de son établissement, on l'aurait plus aisément pris pour un bandit de grand chemin que pour un honnête commerçant.
« Avez-vous une cliente aux yeux bleus ?»
demanda Moiraine.
« Originaire de Théard, je précise. »« Cette auberge n'est pas faite pour les dames comme vous, »
marmonna l'homme en se massant la joue d'une main noueuse.
« Suivez-moi, je vais vous montrer un endroit plus adapté à votre rang. »
Il se dirigea vers la porte, mais Moiraine le retint par la manche. La crasse qui couvrait sa veste était en partie du gras de cuisine, et à le sentir, il n'avait pas dû se laver depuis des semaines.
Une femme de Théard, les yeux bleus. Je n'ai jamais vu une femme de Théard aux yeux bleus. S'il vous plaît, madame, je connais une très bonne auberge à deux rues d'ici.
La protection placée sur Flèche avertit Moiraine qu'il se passait quelque chose.
Merci, mais ça ira comme ça,
dit la jeune femme à l'aubergiste, avant de sortir en trombe. La femme en robe rouge tentait d'emmener Flèche. Tirant sur les rênes, elle s'agaçait de voir la jument avancer à tout petits pas.
« Je n'assisterai pas à ta place, »
lâcha froidement Moiraine.
« Tu sais quel est le châtiment pour un voleur de chevaux ? Le fouet, si on retrouve la bête. Et bien pire que ça si on ne la retrouve pas.
Toutes les acceptées devaient apprendre un minimum de choses sur les lois les plus importantes des diverses nations. La voleuse se retourna, bouche bée. À l'évidence, elle n'avait pas prévu de voir ressortir si vite la propriétaire du cheval. Mais elle se reprit vite, posant la main sur le manche du couteau glissé à sa ceinture.
« Parce que tu crois pouvoir m'en empêcher ?»
fit-elle, méprisante, en évaluant la taille de son adversaire. Moiraine aurait adoré infliger une bonne correction à la voleuse, avec les marques d'un fouet invisible dans le dos, par exemple. Mais elle se serait trahie, et ce n'était pas le moment, car une petite foule de curieux s'était formée autour d'une scène plutôt insolite. Des curieux, pas des citoyens désireux d'intervenir.
« S'il le faut, je pense y arriver, oui, »
répondit Moiraine. La grande voleuse fronça les sourcils, se mordit la lèvre inférieure et tapota nerveusement le manche de son arme. Puis elle lança les rênes de flèche à Moiraine.
« Garde-la, cette carne. Elle ne vaut pas la peine qu'on la vole. »
Se détournant, la jeune femme s'éloigna en défiant toute l'assistance du regard. N'ayant jamais apprécié qu'on la considère de haut, Moiraine lâcha la bonde à sa colère. Canalisant le pouvoir, elle improvisa un tissage d'air qui alla flanquer un formidable coup dans l'arrière-train de la voleuse. Avec un cri de douleur, la femme fit un bond d'un pied de haut pour deux pas de long. La main volant sur le manche de son arme, elle se retourna et chercha à déterminer qui l'avait frappée. Bien entendu, elle ne vit personne. Alors que les curieux la regardaient, les yeux ronds, elle reprit son chemin en massant à deux mains le siège offensé de sa dignité. Moiraine eut un petit hochement de tête satisfait. À l'avenir, la voleuse de chevaux en herbe saurait qu'on n'insultait pas la monture d'une autre femme. La satisfaction de l'Aes Sedai ne dura pas longtemps. Dans la deuxième auberge de la rue, appelée le cochon aveugle, une femme au visage rond et aux petits yeux, l'air miteuse dans son tablier qui ne se souvenait plus d'avoir un jour été blanc, lui annonça qu'elle n'avait aucune dame de Théard dans sa clientèle. Avec un rire agaçant, elle crut bon d'ajouter à sa tirade des conseils de son cru.
« Tu ne devrais pas traîner ici, ma fille. Si tu ne dégarpilles pas, mes clients se feront un plaisir de te gober toute crue. »
L'aubergiste eut un rire gras, auxquels firent écho les tristes cires présents dans la salle commune. Au sou de cuivre, la dernière auberge de la rue, la patronne se révéla d'un tout autre style. Fort belle et d'une taille raisonnable, cette femme d'âge moyen aux cheveux noirs brillants nattés avait un sourire éblouissant. Cerise sur le gâteau, la robe de laine marron de maîtresse Sattaroff, très bien coupée, était d'une irréprochable propreté. Dans la salle commune au sol récemment balayé, les clients ne semblaient guère plus recommandables que ceux des autres établissements. Mais les odeurs de cuisine promettaient un repas d'une qualité acceptable.
« Oui, madame, » répondit en outre l'aubergiste. « J'ai une cliente qui correspond à votre description. Hélas, elle vient de sortir. Pourquoi ne l'attendriez-vous pas assise à une table, devant une chope de vin aux épices ?»
Maîtresse Sattaroff tendit à Moiraine la chope qu'elle portait, et d'où montait une délicieuse odeur d'épices.
« Merci, »
fit Moiraine, en souriant à son interlocutrice et en tendant la main. Trouver Siouan si vite était un vrai coup de chance. Pourtant, Moiraine ne saisit pas la chope, comme elle avait l'intention de le faire. L'expression de maîtresse Sattaroff avait changé. Oh, à peine. Mais on eût dit qu'elle attendait quelque chose. En outre, elle avait la chope en main lorsqu'elle avait approché de sa nouvelle cliente. Dans les deux premières auberges, Moiraine n'avait vu que des chopes de bière. Dans ce quartier, les gens n'avaient pas les moyens de s'offrir du vin. Et les épices, dans une coupe, pouvait masquer des goûts très divers. S'ouvrant à la source, Moiraine fit un petit tissage d'esprit, une arme secrète des sœurs bleues, qu'elle orienta sur l'aubergiste. Chez maîtresse Sattaroff, l'attente se transforma en un fort sentiment de malaise.
« Vous êtes sûr qu'elle correspond à ma description ?»
demanda Moiraine, en accentuant la pression de son invisible filet. De la sueur perla sur le front de l'aubergiste.
« Vraiment sûr ?»
insista Moiraine en augmentant encore la pression. Cette fois, elle lut de la peur dans les yeux de la femme.
« Eh bien, en y réfléchissant, elle n'avait pas les yeux bleus, et puis, elle nous a quittés ce matin. À combien de clients innocents as-tu servi ton vin ?»
demanda Moiraine, passant au tutoiement pour mieux terroriser sa proie.
« Combien de pauvres femmes ? Tu les laisses en vie ? Ou c'est carrément un meurtre à chaque fois ?
Je ne vois pas de quoi vous parler. Madame, j'ai affaire et...
« Bois !»
ordonna Moiraine. La pression devint si forte que maîtresse Sattaroff ne put même pas tourner la tête pour échapper au regard de son bourreau.
« Vide la chope !»
L'aubergiste porta la chope à ses lèvres, but et avala péniblement,
comme s'il y avait eu des éclats de verre dans le vin. Soudain, écarquillant les yeux, comme si elle venait de mesurer l'énormité de ce qu'elle faisait, elle jeta la chope au loin. Moiraine relâcha la pression. Mais ça ne rassura pas l'aubergiste, qui tremblait comme une feuille. Les traits tordus par la terreur, elle regarda autour d'elle, releva l'ourlet de sa robe et partit au pas de course vers la cuisine, visant peut-être plutôt l'escalier qui se dressait au fond de la salle. Après trois pas, elle tituba comme si elle était ivre. Trois de plus, et elle tomba comme une masse, à croire que ses os avaient fondu. Sa robe remonta encore sur ses jambes, révélant des bas de soie. Avec son sale commerce, la garce avait dû faire de beaux profits. Étendue sur le sol, elle bougeait les bras comme si elle avait voulu ramper, mais elle n'avait plus assez de force pour ça. Une partie des clients et des clientes regardèrent Moiraine avec des yeux ronds, sans doute surpris que ce ne soit pas elle qui se soit écroulée. Mais la plupart des spectateurs, surtout les hommes, notamment Moiraine, s'intéressaient aux vains efforts de maîtresse Sattarov pour avancer sur le ventre. Un type dégingandé au visage balafré eut un sourire qui ne se communiqua jamais à ses yeux. Un autre type, les épaules larges comme celles d'un forgeron, se passa une langue gourmande sur les lèvres. Les femmes commencèrent à sortir par petits groupes, beaucoup s'écartant vivement lorsqu'elles passaient à côté de Moiraine. Une partie des hommes jugèrent également plus prudent de filer. Moiraine suivit le mouvement sans se retourner. Parfois, la justice immanente existait bel et bien. Après cette affaire somme toute dramatique, la jeune femme passa le reste de sa journée à explorer les auberges de toutes les... La jeune femme passa le reste de sa journée à explorer les auberges de tous les secteurs les plus délétères de Tchatchin. Secteur et pas quartier, parce que, dans cette fichue ville, 5 rues suffisaient pour passer d'une relative prospérité à d'infâmes bas-fonds. S'ils étaient dignes de leur poste, tous les dirigeants s'efforçaient de lutter contre la pauvreté, ce mal qui finissait par avilir les êtres les plus doux. D'après ce qu'on en disait, Étainiel ne ménageait pas ses efforts dans ce domaine. Mais chaque fois qu'un homme échappait à la misère, un autre tombait entre ses griffes. Si injuste que ce fût, le monde fonctionnait ainsi. En désaccord profond avec ce qui semblait être une des lois de la vie, Moiraine avait ainsi une raison supplémentaire de ne surtout pas vouloir monter sur le trône du soleil. Elle s'enquit de Siouan dans des salles communes remplies de joyeux fêtards des deux sexes, et dans d'ignobles gargotes où les clients, également des deux sexes, noyaient leur détresse dans l'alcool du matin au soir. Personne n'avait vu une femme aux yeux bleus originaire de Théar. En 3 occasions, Moiraine refusa du vin, probablement drogué, voire empoisonné. Mais elle ne réserva pas à ces aubergistes-là le sort qu'avait subi maîtresse Sattarov. L'envie ne lui en manqua pas, mais les histoires de ce genre se répandaient dans une ville à la vitesse du vent. Un récit pouvait passer pour une rumeur, mais sûrement pas 4. Toute sœur bleue présente à Tchatchin saurait immédiatement que c'était l'œuvre d'une Aes Sedai de son aja. Enfin, de son aja apparent, s'il s'agissait d'une sœur noire. Les sœurs bleues pouvaient être des traîtresses, comme toutes les autres. Par 2 fois, Moiraine fut attaquée par des bandits travaillant en duo, l'un saisissant la bride de flèche, tandis que l'autre tentait de désarçonner sa cavalière. Contre plus d'agresseurs, la jeune femme aurait peut-être dû se trahir. Là, le tissage qui avait terrorisé maîtresse Sattarov, mais à pleine puissance, n'eut aucun mal à faire détaler les ruffians, la terreur leur donnant même des ailes. Les passants se demandèrent sûrement pourquoi 2 voleurs si audacieux éprouvaient soudain l'irrépressible besoin de s'enfuir, mais pour qu'ils se doutent de la vérité, il aurait fallu qu'il y ait un ou une naturelle parmi eux. 7 autres fois, des fâcheux tentèrent de voler flèche pendant que sa cavalière était à l'intérieur d'une auberge. Moiraine chassa de la voix une bande de gamins, puis elle dut recourir à des méthodes plus musclées pour faire déguerpir et crier de douleur 3 ou 4 jeunes types qui pensaient n'avoir rien à craindre d'une femme si petite. Tchatchin n'était pourtant pas une ville plus dangereuse que les autres, sauf si on s'ingéniait à explorer des endroits où une robe de soie, une jolie cape de voyage et un cheval suffisaient à éveiller la cupidité des gens. Si elle avait perdu flèche dans cette aventure, plus d'un juge aurait pu dire qu'elle avait bien cherché. Contre des inconvénients de ce genre, il n'y avait rien à faire, sinon continuer son chemin en serrant les dents. Au crépuscule, alors que Moiraine avançait lentement, flèche tenue par la bride, en regardant plutôt 2 fois qu'une à droite et à gauche, Siouan se matérialisa soudain dans son dos.
« Je pensais bien que tu me chercherais par ici, »
dit-elle en prenant son ami par le coude pour lui faire presser le pas. La fille de pêcheur portait toujours la même robe d'équitation bleue. Selon toute vraisemblance, elle n'avait même pas envisagé de s'en acheter une autre avec l'argent que Moiraine lui avait donné.
« Je hante ces rues à ta recherche depuis un moment. Viens, rentrons avant de mourir gelés. »
Avisant des ombres suspectes dans une allée, Moiraine tapota discrètement le manche de son couteau, comme si le pouvoir n'avait pas été une arme bien plus efficace. Efficace, certes, mais idéale pour se trahir. Il était peut-être préférable de presser le pas, effectivement.
« Ce n'est pas un coin pour toi, Moiraine. Il y a ici des types qui seraient bien capables de te dévorer, avant que tu aies compris que tu figurais sur leur menu.
Eh bien, tu ris ou tu t'étrangles de terreur ?»«
Les deux, »
répondit Moiraine avec quelques difficultés. Combien de fois, aujourd'hui, lui avait-on parlé de se faire gober, dévorer ou manger, si elle se montrait imprudente ? Cédant à une impulsion, elle s'arrêta et étreignit son amie.
« Siwan, il est si agréable de voir ton visage. Où es-tu descendu ? Quelque part où on sert du poisson, je suppose. Puis-je au moins espérer qu'il n'y a ni puce ni punaise dans les lits ? Ce n'est peut-être pas le luxe auquel tu es habitué, mais... De quoi as-tu besoin, à part un toit sur ta tête ? Il n'y a pas d'Aes Sedai dans cet établissement. Du coup, tu pourras chasser les puces et les punaises tout en comptant. Mais si nous voulons y être avant la nuit, il faudrait vraiment nous dépêcher. »
Moiraine soupira et accéléra le pas. Dans les endroits douteux où Siwan se sentait comme un poisson dans l'eau, sortir la nuit n'était pas recommandé. En réalité, la fille de pêcheur avait pris une chambre à l'Étoile du Matin, une auberge étonnamment respectable. Cet établissement de deux étages attirait les marchands moyennement prospères, en particulier des femmes qui appréciaient au plus haut point la tranquillité de la grande salle commune. Flanquant la porte, adossée à des colonnes peintes en bleu, deux colosses s'assuraient que les trublions potentiels passent leur chemin. Et de fait, c'étaient les seuls hommes présents dans la salle. Presque toutes les tables étaient prises, cependant. Moiraine identifia effectivement des négociantes de niveau moyen, leur robe de laine très simple mais bien coupée, ornée d'une broche très sobre. En guise de bijoux, presque toutes les clientes portaient de discrètes boucles d'oreilles. Dans un coin, deux femmes qui arboraient autour du cou les chaînes de la guilde des marchands du Condor conversaient à voix basse. Un peu plus loin, trois autres dîneuses, en tenue de manie plus affriolante, discutaient avec passion mais à voix assez basse pour ne déranger personne. Celles-là arboraient des colliers sous lesquels leur cou disparaissait presque totalement. Au milieu de la salle, une femme aux cheveux gris jouait une douce mélodie sur son dulcimer. Humant l'air, Moiraine capta une bonne odeur d'agneau grillé. Pas de poisson, comme elle l'aurait parié. Eileen Tolvina, l'aubergiste, portait une robe grise brodée de fleurs bleues sur les épaules. Femme de tête, elle ne semblait pas du genre à tolérer qu'on trouble la belle harmonie de sa salle commune. Elle n'avait plus de chambre libre, mais ne vit aucune objection à ce que Moiraine partage celle de Siwan.
« À condition de payer le supplément, bien sûr, »
précisa-t-elle en tendant la main. Aux yeux de cette femme, une jolie cape et une robe de soie n'avaient rien d'impressionnant.
« Je pourrais chasser les puces tout mon comptant ?»
lança Moiraine en accrochant sa cape à une patère, dans la petite chambre que Siwan louait au dernier étage. Il y faisait chaud, un poêle était intégré au lit, pas très large, et tout était parfaitement rangé, comme toujours avec Siwan.
« Je m'étonne que tu sois descendu ici, »
continua Moiraine. Le supplément était d'un sou d'argent. En toute logique, Siwan devait payer 2 sous d'argent la nuit.
« Eh bien, si tu as envie de chasser des puces, il te suffira d'en faire venir avant. Pourquoi es-tu surprise ?»
Siwan s'assit en tailleur sur le lit, qui ne s'affaissa pas sous son poids. Depuis Kanloum, elle semblait avoir repris du poil de la bête. Avoir un but la faisait toujours déborder d'enthousiasme. Moiraine préféra ne pas répondre à la question de son amie. Elles allaient partager ce lit. Et Siwan savait exactement où la chatouiller, pour la réduire à l'état de victime impuissante d'un tendre fou rire implorant la pitié de son bourreau.
« Qu'as-tu appris ?»«
Bien des choses, et presque rien. Moiraine, j'ai vécu un calvaire, je te prie de le croire. Ce maudit cheval a failli avoir ma peau. Le Créateur nous a faites pour marcher ou pour naviguer, pas pour être secoué par un équidé à la noix.
Bien, j'imagine que maîtresse Saïra n'était pas la bonne mère, sinon tu frétillerais comme une anguille. »
Moi, j'ai trouvé Inès de Maine sans trop de mal, mais pas à un endroit où je peux la rencontrer. Elle est veuve depuis peu, mais elle a bien un fils, baptisé Rayen, parce qu'elle a vu l'aube se lever sur le pic du dragon. Enfin, c'est ce que disent les rumeurs. Les gens jugent qu'appeler son enfant Aube n'est pas très intelligent.
Moiraine eut un frisson d'excitation qu'elle réprima aussitôt. La mère avait vu l'aube se lever sur le pic, certes, mais ça ne voulait pas dire que son fils était né sur un versant de la montagne en question. En l'absence de siège, on voyait d'ailleurs mal où on aurait pu en mettre un, Moiraine s'assit au bout du lit, les bras autour des genoux.
« Siwan, si tu as trouvé Inès et son fils,
Pourquoi n'as-tu pas pu les rencontrer ? Parce que Inès vit dans le maudit palais Aes Sedai-char, voilà pourquoi. Pour y entrer, Xuan aurait dû révéler qu'elle était une Aes Sedai. Sinon, il n'y avait qu'une autre solution, se faire engager comme domestique. Le palais Aes Sedai-char.
Nous nous occuperons de ça demain matin, dit Moiraine.
Ça impliquait des risques, mais Dame Inès devait être interrogée. Jusque-là, aucune des mères n'avait été en situation de voir l'aube se lever sur le pic du dragon au moment de la naissance de son fils.
As-tu remarqué des manifestations de... Eh bien, de l'âge à noir ?
Par la lumière. Moiraine devrait s'habituer à prononcer ces deux mots ensemble. Xuan fronça les sourcils et joua distraitement avec le devant de sa robe.
C'est une ville étrange, mon ami. Des lampes dans les rues et des femmes qui se battent en duel, même si elles prétendent le contraire. On y entend plus de rumeurs que des ivrognes peuvent raconter en une vie. Cependant, certaines sont intéressantes.
Xuan se pencha pour poser une main sur le genou de son ami.
Tout le monde parle d'un jeune forgeron qui est mort l'échine brisée, il y a 2 ou 3 nuits. Jusque-là, il passait inaperçu. Mais depuis un peu plus d'un mois, il avait pris de l'envergure. Il a convaincu sa guilde de collecter des fonds pour les pauvres qui se sont réfugiés à Chachin, fuyant les bandits. Des malheureux sans aucun lien avec une guilde ou une maison noble.
Xuan, quel rapport avec... Contente-toi d'écouter, Moiraine. Il a collecté pas mal d'argent lui-même, notre forgeron. Quand on l'a tué, il était en chemin vers le siège de sa guilde pour y déposer 7 ou 8 sacs de pièces. Cet idiot transportait tout ça lui-même et s'en garde du corps. Mais voilà où je veux en venir. On ne lui a pas volé un sou, et il n'avait pas une marque sur lui, à part sa colonne vertébrale cassée.
Les deux amis se regardèrent longuement, puis Moiraine secoua la tête.
Je ne vois pas le lien avec Meilin ou Tamra. Un forgeron ? Si nous commençons à voir des sœurs noires partout, nous finirons folles alliées.
Et si nous ne les voyons pas là où elles sont, nous en mourrons.
Avec de la chance, nous pouvons être des brochets pris dans le filet, plutôt que du menu fretin. Mais n'oublie pas que les brochets aussi se vendent sur les marchés aux poissons. Tu as une idée précise au sujet de notre dame Inès ?
Moiraine exposa son plan. Xuan ne l'aima pas, et il lui fallut presque toute la nuit pour la convaincre qu'il tenait debout. En un sens, Moiraine aurait espéré que son ami la dissuaderait. Mais tout de même, dame Inès avait vu l'aube se lever sur le pic du dragon. Au moins, la conseillère Aes Sedai d'Étainiel était dans le sud du pays avec sa reine.